News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Notre émission d'aujourd'hui va aborder essentiellement la question du recrutement et de l'accompagnement à l'embauche. Deux structures spécialisées sont avec nous pour en parler. L'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui, comme son nom l'indique, s'adresse à un public de niveau cadre en recherche d'emploi, cadre confirmé ou jeune diplômé. Et la structure Mosaïque RH qui se présente en tant que cabinet de recrutement et de conseil en diversité. Avec nos invités, nous allons évoquer les services proposés par leur structure, les exigences des employeurs et les difficultés des candidats. Nous aborderons aussi la question d'un recrutement équitable pour tous. Alors on fait tout de suite les présentations en commençant par Patricia Ozil. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à News FM. Patricia, vous êtes responsable de plusieurs centres APEC sur plusieurs départements. Je vous laisse vous présenter un peu plus.
En tant que responsable, je couvre effectivement 5 départements du Sillon alpin, donc, qui a une existence à la fois académique et économique. Donc, ça représente le territoire de l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les deux Savoie, donc Savoie Haute-Savoie, avec des implantations APEC sur Valence, Annecy et Grenoble.
Le centre APEC de Grenoble, il est situé où?
Le centre APEC de Grenoble, il est rue Gustave Eiffel, donc pas très loin de la Belle Électrique. Certains doivent connaître ce site.
Tout à fait, dans le quartier Bouchaillé-Vialet, flambant neuf.
Tout à fait, et donc très accessible, ce qui est intéressant, c'est très accessible par les moyens de transport en commun, donc, puisqu'on est desservi par les deux trams, les deux lignes de tram.
On rappellera de toute façon en fin d'émission les contacts comment vous trouvez l'APEC. Dans notre studio également, nous avons Florian Inard. Bonjour. Bienvenue également, Florian. Donc, vous êtes venu pour témoigner de votre parcours personnel avec l'APEC.
Tout à fait.
Vous êtes diplômé depuis 2019. Dans quel domaine?
L'informatique, ingénierie en informatique.
Et du coup, depuis le diplôme, c'est la phase suivante par laquelle on est tous passés, la recherche d'emploi, qui parfois est un parcours du combattant. Donc, on va revenir, vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé jusqu'à présent et comment ça se passe encore pour vous et vos projets pour l'avenir. Et puis, notre troisième et dernière invitée, il s'agit de Marie-Lou Ferrand, qui est présente avec nous. Bonjour. Par audioconférence depuis Lyon. Bonjour Marie-Lou.
Oui. Bonjour à tous les trois.
Merci
et bonjour tout le monde.
D'être avec nous. Donc Marie-Lou, vous êtes responsable des opérations et partenariats chez Mosaïque RH, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà,
tout à
pour
fait.
La
donc,
région.
Je suis la responsable des opérations et des partenariats pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà.
Donc pour Mosaïque, effectivement, dont on vous parlera après.
Oui, vous allez nous la présenter un peu plus, cette structure, ce cabinet de recrutement. Mmh. Alors, on va commencer avec l'APEC. Donc, Patricia, je vous redonne la parole pour nous expliquer, nous faire une présentation de ce réseau, puisque c'est un réseau national et qui a fêté ses plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, effectivement. Plus de 50, enfin, c'est pas cette année, il y a déjà 3 ans qu'on a fêté nos 50 ans. Donc, effectivement, l'APEC est une structure nationale, c'est associatif, donc association loi 1901, paritaire, avec un mandat de service public, sans être organisme public. Quand on est cadre en France, quand on a une entreprise qui embauche des cadres, on va être soumis à une cotisation, ce qui permet à l'APEC de bénéficier effectivement de services, que ce soit des cadres, des entreprises, du secteur privé, et puis des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur qui sont aujourd'hui des ayants droit à partir du moment où ils ont un bac plus 3. Donc notre activité, elle c'était une activité de conseil qui s'adresse à la fois aux jeunes diplômés, comme je viens de le dire, qui s'adresse aussi aux cadres actifs salariés, qui s'adresse bien sûr aussi aux cadres qui sont en recherche d'emploi et qui s'adresse bien sûr aux entreprises, principalement les TPE et les PME qui sont le moins bien lotis en termes de services RH, mais aussi
donc
aux grandes
précise,
entreprises.
On précise juste que TPE et PME, ça veut dire
très petites entreprises et Donc les
petites et moyennes entreprises.
Petites moyennes entreprises. Voilà. Et donc on est en proximité sur des territoires et on va avoir des personnes qui vont être en charge, soit d'accompagner les cadres et les jeunes qui sont des consultants en développement professionnel et les autres effectivement qui sont des consultants en relations entreprises. Et ces services peuvent être à la fois leur sont totalement personnalisés, mais je pense que notre témoin va pouvoir en donner quelques exemples, et qui sont aujourd'hui, bien évidemment, à la fois en proximité, ces services, et à la fois à distance, aussi bien pour les entreprises que les cadres et les jeunes.
Alors, il y a aussi
Et on est aussi un jump board.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, les entreprises déposent sur notre site des offres d'emploi qui vont être qualifiées par des consultants, de manière à ce qu'elles elles aient une qualité d'offre suffisante. Mais une entreprise peut aussi faire appel à nos services de manière à pouvoir l'accompagner dans le marketing de son offre et derrière, effectivement, dans la qualification des candidatures, au sens où on va recevoir les CV, on va mandater l'APEC pour réceptionner les CV et qualifier le CV. En fin de compte, on n'a pas d'entretien avec les candidats potentiels, mais on va pouvoir aider toutes ces structures qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens humains de faire du recrutement avec nous. Et bien évidemment, ce qui est intéressant aussi pour une entreprise, c'est que parmi les cadres et les jeunes qu'on accompagne, on va pouvoir mettre en relation ces cadres et ces jeunes sur des offres données, des territoires, de manière à pouvoir leur présenter des candidats que nous, on connaît, dont on a validé un certain nombre de choses et qui correspondent aux critères attendus par l'entreprise.
L'APEC fait aussi office d'observatoire du marché de l'emploi des cadres.
Exactement. Donc l'APEC dans le cadre de son mandat, est un observatoire important puisqu'on nous attend sur un certain nombre de choses. Dans quelques jours, le 6 mai très exactement, va sortir ce qu'on appelle le panel. Tous les ans, on fait un panel. Cette année, il a été un petit peu retardé puisque avec la complexité que nous connaissons aujourd'hui tous et toutes. Donc on a des choses qui sont récurrentes, comme le panel par exemple. On fait des notes de conjoncture aussi qui nous permettent d'analyser sur tous les trimestres, tout ce qui a trait à la conjoncture économique et donc la conjoncture de l'emploi. Mais on a aussi des études qui peuvent porter sur des sujets moins récurrents. Ça peut être la femme ingénieure, par exemple, des sujets comme cela, ou les emplois en devenir, donc tout ce qui touche, en fin de compte, tous les sujets qui touchent à l'emploi, qui touchent aux conversions, qui touchent aux changements, on va avoir aussi à les traiter avec un département qui est là pour ça, avec des consultants qui sont là pour ça et qui ne font que des études et des analyses avec les entreprises.
Florian, de votre côté, la rencontre avec l'APEC, comme tout diplômé, alors c'est à partir de bac plus 3, voilà. Donc comme tout diplômé bac plus 3 et plus, l'APEC est un peu l'équivalent de Pôle emploi hein, pour tous ceux qui ont ce niveau bac plus 3 et plus. Donc vous, c'était tout naturel, Florian, que après le diplôme, c'était la recherche d'emploi et la prise de contact avec l'APEC.
Alors moi, j'ai pas commencé à chercher directement, prendre des contacts à l'appel ou Pôle emploi tout de suite après mes études. J'ai commencé par faire du bénévolat à l'étranger, en Afrique, où je cherchais d'abord à plus élargir un peu mes perspectives et mes horizons par rapport à ma façon de voir les choses dans la société et par rapport au contact aux gens. Et du coup, je suis revenu après 6 mois et j'ai quand même pris après encore du temps pour réfléchir sur mon projet professionnel un peu de mon côté. Et j'avoue que j'étais un peu effrayé par cette recherche d'emploi, comme peuvent l'être certains, malgré le fait que j'ai un diplôme d'ingénieur et un bac plus 5, etc. Et j'ai pris quand même pas mal de temps. J'ai contacté l'APEC seulement en février 2020. Donc, 2021, pardon. Donc, un bon moment.
Il y a 2 mois, alors.
C'est ça, tout à fait. J'ai eu, pas rentrer dans les détails, mais d'autres problématiques qui ont occupé pas mal de mon temps. Pour moi, c'était pas. Enfin, j'ai envie d'aller rentrer dans le monde du travail, mais j'ai envie de prendre mon temps, de faire les choses bien. Je suis pas pressé. J'ai pas un besoin de. Il faut que dans 2 semaines je trouve un travail, sinon je suis à la rue ou quoi. Donc, j'ai préféré prendre mon temps et réfléchir un peu. Et il y a certaines clés que j'avais pas forcément. Donc, du coup, c'est mes parents qui m'ont parlé de l'APEC et je suis allé un peu voir un peu sur leur site et je suis allé les contacter et j'ai vu qu'ils faisaient un atelier premier emploi en fait, où ils proposent une demi-journée où on va discuter avec un conseiller en fait pour voir un peu. quels sont les outils dont on peut disposer, commencer à préciser un peu son projet, où est-ce qu'on en est dans la recherche en fait, et comment rechercher en fait, juste ne serait-ce que les bases qu'on n'a pas forcément si on n'a pas fait d'atelier comme ça, ou si on n'a pas forcément de connaissances dans le domaine. Et du coup, j'ai commencé par ça, et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu, parce que ce premier atelier, c'est un truc qu'on fait en groupe, où on était peut-être 8 jeunes diplômés d'horizons complètement différents. Moi, je venais de l'informatique, il y en a qui étaient dans le travail du bois, il y en a qui étaient dans la chimie, enfin, c'était vraiment des horizons différents, mais on arrive, enfin, c'est la même base, en fait, pour chercher. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes outils, enfin, c'est la même façon, plus ou moins, de faire son CV, entre guillemets, après, on va s'adapter forcément à son domaine. Mais c'est des ateliers qui permettent de vraiment commencer à préciser son projet, savoir, comme je disais, comment on cherche en fait. Est-ce qu'il faut répondre juste à des annonces? Est-ce qu'on fait des candidatures spontanées? Donc contacter directement une entreprise sans répondre à une annonce. Découvrir aussi des outils comme que propose de l'APEC, comme voir des fiches métiers, comme on peut voir, qu'on peut nous présenter quand on est au lycée par exemple, quand on nous demande de choisir ce qu'on veut faire alors qu'à part jouer, on ne veut pas faire grand-chose à l'époque. Et du coup, on voit vraiment le lien en fait entre les connaissances qu'on peut avoir. Ces fiches présentent vraiment quelles compétences il faut, quels sont les prérequis en termes de profil, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quel est le niveau inférieur ou supérieur, on va dire, en termes hiérarchiques, vers quoi on peut évoluer ou de quoi est-ce qu'on peut partir pour accéder à ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça permet vraiment de se cadrer un peu en fait, de préciser comment faire et qu'est-ce qu'on veut faire. Pour moi, était vraiment quelque chose qui me manquait un peu. Enfin, j'étais un peu dépassé par toute cette recherche. En fait, je ne savais pas par quel bout commencer.
Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Vous disiez que vous aviez une certaine appréhension pour cette recherche d'emploi. Donc, c'est 2 mois qui sont quand même assez courts donc pour l'instant pour faire un bilan complet de ce parcours avec l'APEC. Mais en tout cas, ces 2 mois, ça a permis déjà de vous rassurer un petit peu.
Tout à fait. Bah, après, je peux même, c'est allé assez vite. Hein. Je peux même déjà faire un bilan de ce côté avec l'APEC. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus réellement besoin de ce suivi APEC parce qu'en fait, j'ai pour moi toutes les clés dont j'avais besoin. En fait, ça a suffi. Il a suffi de cette demi-journée à peu près, comme je vous expliquais. Puis après, j'ai eu trois rendez-vous avec mon conseiller APEC à deux trois semaines d'intervalle à chaque fois, et ça m'a suffi pour préciser ce que j'avais besoin. Parce que du coup, après, dès que du coup on va se retrouver juste avec notre conseiller, du coup, ça va être beaucoup plus personnalisé par rapport à nos besoins. Et c'est vrai que du coup, c'est moi, on m'a aidé, on me dit, commencez par faire ça, vérifiez par exemple quelles sont les compétences que vous avez. Faites la liste de toutes les compétences que vous possédez, qu'elles soient techniques ou ce qu'on peut appeler les soft skills, c'est-à-dire des skills qui vont être beaucoup plus transverses, comme l'autonomie, la capacité de travailler en équipe, ce genre de choses. Et après, une fois qu'on a fait cette liste, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire sortir sur un CV par rapport au poste qu'on va chercher.
Mais Patricia, est-ce que la façon dont l'APEC, les conseillers APEC, gèrent un petit peu ces rendez-vous, est-ce que c'est très différent de ce que des conseillers Pôle emploi font ou finalement c'est l'équivalent?
Alors quand on est consultant, parce que alors chez nous, effectivement, il y a une gradation, les conseillers sont des gens qui traitent beaucoup, beaucoup de choses à distance et les consultants sont des personnes qui accueillent des cadres, y compris aujourd'hui, hein, des cadres et des jeunes, de manière physique dans leur bureau. Aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous avec un consultant de l'APEC, on le fait de manière volontaire. On n'a pas d'obligation. La différence, effectivement, avec le Pôle emploi, alors quand on est jeune diplômé, on n'a pas d'obligation à s'inscrire à Pôle emploi, mais quand on est cadre en recherche d'emploi, on a obligation de passer par effectivement le volet Pôle emploi. Chez nous, quand on arrive chez nous, on le fait de manière très, très, très spontanée et volontaire. La plupart du temps, alors quand on est jeune, on ne connaît pas les services de l'APEC, hein, du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a en tête. Alors, comme le dit mon voisin, il a appris ça, il a été spontanément conseillé par ses parents. Donc ça peut être intéressant de parce qu'un parent connaît ou parce qu'un grand-parent connaît ou parce qu'un son réseau connaît, de venir à l'APEC. Quand on est jeune, c'est souvent la difficulté. Quand on est cadre, c'est moins compliqué puisque on sait à peu près ce que fait l'APEC, pas forcément dans le détail. Et quand on vient chercher un rendez-vous à l'APEC, c'est souvent, quand on est jeune, on se rend compte qu'on va y recevoir de la méthodologie. Ce qui manque souvent, c'est de la méthodo, même si pendant ces études, on a eu des services de conseil au sein des universités et des écoles. Mais on vient rechercher de la méthodologie. quand on est cadre, qu'on soit en activité ou en recherche d'emploi, on peut venir y chercher d'autres choses. On a vu arriver beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont en activité depuis la première phase du confinement. Énormément de gens qui se posent des questions sur le sens qu'ils vont donner à leur vie professionnelle. Je suis cadre, je ne veux plus faire ce que je fais, je n'y trouve plus de sens. Donc, qu'est-ce que je vais refaire en termes de est-ce que je peux envisager une reconversion? Et comme on est acteur du conseil en évolution professionnelle, on est capable d'accompagner des cadres, y compris dans des positionnements de démission, ou en tout cas pour aller chercher une formation, pour se reconvertir. Donc, quand on vient chercher du service à l'APEC, il est totalement personnalisé. On n'a pas de contrainte, la contrainte du demandeur d'emploi qui va passer par Pôle emploi. On est de toute façon en partenariat avec le Pôle emploi, qui peut nous envoyer des cadres en recherche d'emploi ou des jeunes. Donc, quand on vient à l'APEC, c'est pour venir chercher du conseil.
On va donner la parole à Marie-Lou Ferrand pour qu'elle puisse nous présenter déjà dans un premier temps, Marie-Lou, ces structures que vous représentez dans l'émission aujourd'hui, donc Mosaïque RH. Quelques mots pour nous resituer un petit peu. Quand est-ce que c'est né ce cabinet un peu spécialisé? Bien sûr. Et puis ce que vous faites exactement?
Donc Mosaïque, en fait, c'est une structure qui est née en 2008, créée par Saïd Amouche et Estelle Barthélémy. Et c'est une structure qui est spécialisée dans l'inclusion économique des talents diplômés de la diversité et des territoires moins privilégiés en France. Donc cette structure, elle compte d'un côté un cabinet de recrutement, comme vous l'avez dit, hein, un cabinet de recrutement inclusif qui accompagne les entreprises pour les appuyer dans leur recrutement et pour qu'ils soient les plus diversifiés possibles. Donc, on a des actions de formation, de conseil auprès de nos entreprises partenaires et de recrutement en stage, en alternance, en emploi. On a plusieurs partenaires d'ailleurs sur la région comme Sanofi ou Michelin, par exemple. Et on a une partie donc plutôt axée sur l'accompagnement des jeunes diplômés à fort potentiel dans leur recherche d'emploi ou d'alternance. Cette partie-là, elle permet vraiment de partager aux jeunes talents diplômés qu'on détecte dans la diversité, dans les territoires type ruraux ou dans les quartiers. Ça permet vraiment de partager tout ce qui est notre réseau, notre connaissance du marché du travail et tout ce qui va pouvoir les appuyer dans leur recherche de poste pour qu'ils accèdent en fait rapidement à des postes qui soient à la hauteur de leurs compétences, tout simplement. Et c'est vrai que cette action d'accompagnement sur Grenoble, grâce au soutien de Grenoble Alpes Métropole depuis 2018, on a des actions récurrentes dans les quartiers prioritaires de la métro.
D'accord. J'imagine qu'il y a aussi un gros travail de relation avec les recruteurs, hein, puisque en tant que cabinet de recrutement, vous êtes un peu l'intermédiaire entre les candidats et les entreprises qui recrutent. Est-ce qu'il y a finalement, vous faites aussi un petit peu d'éducation auprès des entreprises, éducation à l'équité et la diversité?
Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. On a effectivement un rôle de passerelle, c'est ça que j'aime bien dire, un rôle de passerelle entre le monde de l'entreprise et les candidats. Alors, je ne sais pas si le mot, c'est le mot éducation qu'on peut utiliser, c'est plus le mot sensibilisation, puisque effectivement, que ce soit auprès des entreprises ou même auprès des candidats, il y a forcément voilà, une sensibilisation à faire pour changer les mentalités, transformer les façons de recruter, et même côté candidat, en fait, pouvoir être sensibilisé à tel ou tel poste auquel on n'aurait peut-être pas pensé postuler initialement. Donc, il y a vraiment un rôle, effectivement, de médiation ou voilà, d'intermédiaire entre les deux qui permet de faire le lien. Et de réaliser des recrutements et de travailler sur nos sujets de lutte contre les discriminations à l'embauche, effectivement, et d'inclusion.
Quand une entreprise a recours à vos services, que ce soit l'APEC, Patricia, ou donc Mosaïque RH, quelles sont ses premières exigences, Patricia?
Alors, en tant qu'APEC, j'aurais tendance à dire... Heureusement ou malheureusement, lorsqu'on va beaucoup travailler, alors je vais faire une réponse de Normand et contourner un peu la question, mais les conseillers qui accompagnent les entreprises dans la rédaction de leurs offres vont aussi aider les entreprises à comprendre le marché. C'est-à-dire qu'à l'inverse, il y a un besoin, il y a une offre, il y a un besoin de candidature, de candidats, et en face, il y a un besoin en compétences. On va essayer de faire évoluer aussi les parties prises des entreprises de manière à leur faire la démonstration que, notamment sur des postes, ce qu'on appelle pénuriques, parce qu'il y en a encore, savoir que les entreprises recrutent. Il y a des postes sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter. On va essayer, comme un petit peu le disait Marie-Lou, on va essayer d'ouvrir les consciences et d'essayer de leur faire, de leur faire appréhender peut-être des sujets comme je voulais 10 ans d'expérience, si je prends un alternant, c'est pourquoi ça ne serait pas inintéressant d'avoir un alternant, par exemple. Donc oui, quand on fait appel à nous, on va avoir des personnes au téléphone qui vont aider l'entreprise à évoluer sur ses besoins. Alors l'exigence de l'entreprise, on va dire que parfois, ils ne se sortent pas de cette idée de rechercher un mouton à 15 pattes, ce que je dis toujours. Sauf que le mouton à 15 pattes, dans certains secteurs d'activité ou certains métiers, n'existe pas. Que les entreprises, parfois aussi, recherchent le clone de celui ou celle qui est parti. Et sauf que le clone de celui ou celle qui est parti, il était là depuis 10 ans dans l'entreprise, ou 15 ans, ou 20 ans. Et même si on le remplace par quelqu'un qui a de l'expérience, ça ne sera pas le clone de celui qui est ou de celle qui est parti. Donc on essaye aussi de faire évoluer les entreprises dans ce sens-là, pour les interroger sur le besoin et peut-être éduquer entre guillemets aussi. La plus grosse des difficultés, mais j'ai plein d'exemples sur le sujet, c'est pas tellement de convaincre les gens qui sont en responsabilité de recrutement ou les DRH ou les RH. Eux, ils en sont conscients de ça. La plus grosse des difficultés, c'est de faire évoluer les managers de proximité qui, eux, alors que ce soit des grandes entreprises qui ont pourtant des périodes d'intégration avec les formations qui vont avec. Mais le manager, lui, ce qu'il veut, le manager de proximité, ce qu'il veut, c'est, même s'il recrute quelqu'un qui a déjà de l'expérience, ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Et malheureusement, l'opérationnalité immédiate, ça ne s'acquiert pas parce qu'il y a de la culture d'entreprise, parce que il y a des choses effectivement qui sont entendues dans une entreprise A dans laquelle on a travaillé, mais qui ne le sont pas dans l'entreprise B dans laquelle on va potentiellement pouvoir aller. Donc voilà, donc il faut aussi faire changer ça, il faut essayer d'expliquer qu'il y a des tas de choses qui peuvent être mises en œuvre, et c'est aussi les consultants chez nous qui font évoluer ça, les consultants relations entreprises, en disant, travaillez votre marque employeur, vous allez peut-être attirer des gens qui n'auraient pas pensé à candidater chez vous, mais travaillez peut-être aussi ces périodes d'intégration. Peut-être penser qu'à l'intérieur même de vos services, vous avez peut-être potentiellement des compétences que vous pouvez faire évoluer avec la formation. Donc voilà, on est aussi là pour les faire travailler sur ces sujets-là.
Donc, si je repense ce que vous avez dit, l'employeur veut toujours aujourd'hui, comme il y a 10 ans, 50 ans, avoir quelqu'un de directement opérationnel. Donc il y a toujours cette sempiternelle... ce cercle vicieux de vouloir avoir quelqu'un qui a déjà de l'expérience, et donc les jeunes diplômés, eux, sont toujours confrontés à cette barrière. Marie-Lou, de votre côté, donc, puisque vous intervenez quand même sur un secteur assez spécialisé, est-ce que ce sont les entreprises qui vous démarchent, qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est vous qui devez davantage aller chercher des employeurs pour leur dire, il y a des jeunes qui viennent des quartiers prioritaires et qui sont tout aussi compétents que les jeunes qui viennent d'ailleurs.
Alors, c'est vraiment un mix. On approche de notre côté les entreprises, effectivement, pour voir un petit peu ce qu'elles font en matière de diversité, en matière de responsabilité sociale. Et d'autre part, les entreprises viennent également à nous parce qu'elles ont effectivement le souhait de se questionner sur leurs pratiques et de les faire évoluer. Donc, il y a vraiment toute une dimension. Il y a pas mal de choses que Patricia a très bien résumées. Et il y a également une dimension de notre côté de faire une espèce d'audit pour voir quelles sont les pratiques déjà en matière de recrutement qui ont été mises en place, etc. Et derrière, pouvoir les conseiller, former et sensibiliser les managers et les RH justement au recrutement inclusif non discriminant. Et puis, pouvoir gérer les offres qu'ils nous confient de A à Z pour pouvoir les appuyer dans cette... dynamique de recruter autrement. Et là, c'est vrai que effectivement, l'expérience rassure souvent les recruteurs. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir leur rappeler qu'il y a tout un tas d'autres sujets qui peuvent être observés sur un poste. Et il y a effectivement un sujet important chez les jeunes diplômés, c'est le sujet des soft skills, donc de la personnalité, des motivations, des aptitudes qu'on mesure pas toujours en entretien et qui sont pourtant essentielles pour l'épanouissement dans le poste et pour pouvoir le candidat ou la candidate donne le meilleur de lui ou d'elle-même une fois en poste, en fait. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui est important et qu'on revendique aussi pour se dire, voilà, il n'y a pas que l'expérience qui compte, il y a aussi les motivations, la personnalité, le savoir-être très essentiel pour la tenue d'un poste. Et c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup avec nos entreprises partenaires, en effet.
Juste avant de faire une petite pause musicale, Florian, je voulais avoir un petit peu aussi votre réaction par rapport à ça sur l'aspect... capitalisation de l'expérience, puisque vous l'avez dit, entre votre diplôme, la fin de vos études, et puis le début de votre recherche effective qui date que depuis ce début d'année, il y a eu une période où vous avez cherché à acquérir une expérience différente. C'est aussi ce qu'on appelle du soft skill, ce que vous avez fait ?
Je le considérais comme tel, effectivement, parce que c'est, par exemple, quand j'ai fait du bénévolat, comme je disais, en Afrique, c'est développer du relationnel, savoir discuter avec des gens, se mettre à la place d'autres personnes. Pour donner un peu de contexte, moi, je travaillais avec des jeunes qui viennent de régions défavorisées du Niger, et je travaillais dans un internat, en fait, où on faisait un peu du soutien scolaire et de l'éducation sous l'organisation de certains éducateurs spécialisés pour des jeunes qui allaient entre la primaire et du bac plus 3. Donc, c'est... on développe beaucoup justement de ces soft skills parce que déjà faut de l'autonomie, il y a beaucoup de réflexion, de remise en question parce qu'on arrive dans un nouvel environnement par exemple où on va être la culture est différente, le climat est différent, les gens sont différents, le pays est différent, donc on va développer du coup cette autonomie, cette capacité de travailler en équipe parce que il faut revoir comment est-ce qu'on travaille en fait, parce que les gens travaillent pas de la même manière en Afrique comme ils peuvent travailler en Europe ou même ne serait-ce que juste de la France au Niger, et donc du coup ces soft skills sont pour moi, personnellement, c'est des choses qui sont quand même vraiment très importantes, notamment quand on est jeune diplômé, parce qu'on n'a pas forcément... Enfin, on a la technique qu'on a eu en cours et du stage qu'on a pu faire pour ceux qu'on en fait un ou de l'alternance qu'on a pu avoir avant. On est presque tous, dans un sens, au même niveau, en fait, quand on sort d'études, quand on sort d'un même diplôme. Après, il y en a qui sont forcément un peu plus forts que d'autres, mais ça ira pas plus loin. D'ailleurs, la seule chose qui va nous différencier, c'est la personnalité, et du coup, c'est soft skill, en fait, justement, qu'il va y avoir. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et sur certains échanges que j'ai pu avoir avec des recruteurs, il semblerait que certains ont l'air d'avoir plus de mal en fait, à avoir de l'intérêt dans ces soft skills par rapport à des compétences beaucoup plus techniques. Alors que, pour mon point de vue, évidemment, mais quelqu'un qui a appris à apprendre, il sait, par exemple, si je prends par exemple, la programmation dans l'informatique, il y a plusieurs langages. Si une personne est un expert dans un langage, le jour où il doit changer, par exemple, ça risque d'être plus compliqué pour lui. Alors quelqu'un qui a vraiment appris à apprendre et qui est capable en 2-3 semaines de changer de langage, de changer de domaine, peut avoir beaucoup plus de valeur pour une entreprise. Après, évidemment, ça dépend du poste. S'il y a besoin d'un expert technique juste dans un domaine et que ça ne changera jamais, il vaut mieux prendre quelqu'un qui va être plus dans cette technique-là. Mais si c'est les entreprises des sociétés où ils prennent sur du potentiel, où ils voient en fait, on aime bien votre profil, on va voir où est-ce qu'on peut vous mettre en fait. Sur quel projet, sur quelle mission on peut vous mettre. Et c'est là justement où ces soft skills vont avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup plus de flexibilité en fait à ce niveau-là.
Donc ça veut dire que, comme vous disiez, il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas encore sensibilisés à cet aspect des compétences des candidats. C'est vraiment aux jeunes diplômés ou aux personnes qui se réorientent d'arriver à négocier un peu l'entretien d'embauche d'une manière différente pour essayer de bien valoriser tout ça. Patricia, Marie-Lou, vous pouvez réagir.
Les entreprises qui sont... Alors nous, on prépare aussi les entreprises aux entretiens. Donc on peut, comme le disait Marie-Lou, on va essayer de leur faire toucher du doigt un certain nombre de pratiques. On a aussi des services qui permettent d'approfondir le sujet des pratiques, notamment qui s'appelle solution recrutement. Donc une entreprise peut tout à fait à faire appel à l'APEC de manière à travailler avec un consultant sur le sujet du recrutement, par exemple. Mais autant, enfin, j'ai travaillé avec un consultant il y a quelques années qui avait intégré une grosse structure, une multinationale, donc à côté de Londres, et qui venait de cette même multinationale en France. Et déjà à l'époque, elle me parlait, puisque je l'avais recrutée dans mon équipe, et déjà à l'époque, elle me parlait de la différence entre les deux pays, donc UK et France, dans la modalité de perception des profils. Elle me disait, moi, mon patron, il veut que je recrute des gens qui en ont entre les deux oreilles. Alors ça, c'est donc la transformation intégrale, effectivement, de l'anglais au français. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, les DRH, les RH peuvent avoir cette conviction qu'il est nécessaire d'aller chercher les soft skills. Mais les managers opérationnels, pas toujours. Alors, comment est-ce qu'on arrive à préparer à la fois, parce que ce n'est pas le sujet exclusif des jeunes hein, aujourd'hui, c'est un sujet qui peut être intéressant à aller chercher aussi quand on est cadre actif salarié ou cadre en recherche d'emploi, parce que souvent, on a du mal à en parler, on a du mal à aller identifier ce qu'on sait faire et quel est le type de capacité qu'on a mise en œuvre quand on a fait les choses. Quand on est jeune, ça paraît pas évident, mais en tout cas, c'est plus facile à le faire travailler. Quand on est cadre expérimenté, c'est un peu plus compliqué parce que les choses paraissent évidentes. Donc, il faut aller chercher, en fin de compte, l'explication avec le cadre, de manière à le mettre en évidence, qu'il y a plein de transferts possibles entre un domaine d'activité, une entreprise, y compris dans des choses qu'on a fait à titre personnel. C'est-à-dire qu'on a plein d'atouts dans sa manche, qu'on peut aller chercher dans une expérience de vie et pas exclusivement dans une expérience de vie professionnelle. Donc, il faut arriver à associer toutes ces données. C'est un petit peu comme un énorme puzzle. On a un cadre et à l'intérieur, on va chercher des pièces de manière à associer tout ça avec une présentation de son offre de service, avec l'identification d'un besoin aussi, parce que c'est pas parce qu'on est un super expert qu'on va pouvoir très bien fonctionner dans n'importe quelle entreprise. On peut très bien dysfonctionner dans une entreprise alors qu'on a très bien fonctionné dans une autre. Parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération quand on est face à une entreprise ou quand on va essayer d'aller identifier une entreprise. C'est sa culture, c'est sa façon de fonctionner, c'est ses codes, c'est quels sont aujourd'hui... comment fonctionne le management, comment fonctionne le social à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont permettre, effectivement, en les agglomérant les unes avec les autres, à vraiment coller au plus près du besoin de la culture de l'entreprise.
Marie-Lou, je vous donnerai la parole tout de suite après la pause musicale pour aussi que vous nous apportiez votre point de vue sur cette question des soft skills, parce que les jeunes qui viennent des quartiers réputés difficiles, etc., peuvent aussi venir déjà avec des doutes sur leur propre capacité. Donc ça peut être important de voir comment vous travaillez avec eux sur ces questions-là. On se fait une petite pause musicale pour s'aérer un peu les oreilles et puis on se retrouve. Donc je vous rappelle à vous tous, vous toutes qui nous écoutez, que vous êtes sur News FM, dans l'émission La Voix de l'Emploi, on parle aujourd'hui de recrutement. Allez, pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
lip gloss, hickeys to honkies. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, it's just principle. Baby, hold me, cause I like the way I groove. Oh, 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 you're out your name. I can do the same. Oh, I love to dance. La, 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 la. I love my time, I want it. Oh, you're out your name. I can do the same. Oh, I love to dance. La, 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 la. I love my time, I want it. So give me a buck, need the Gucci store. Push your limit, now you ain't good enough. All your niggas say that you lost without me. All my bitches feel like I dodged the county. Fucking with you feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Car creeping with your friend, you ain't even had man lying on your you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control on soda, pace it right though back. Oh, this ass for real.
De l'emploi, c'est sur News FM. Et oui, voilà, nous sommes de retour dans La Voix de l'Emploi. Sur le 101.2, nous parlons aujourd'hui de recrutement pour tous, cadres et non-cadres, avec nos invités, Patricia Ozil de l'APEC, Florian Inard, qui est en recherche d'emploi, donc qui vient témoigner, et Marie-Lou Ferrand de Mosaïque RH. Alors donc, chose promise, chose due, Marie-Lou, c'est à vous que je donne la parole maintenant pour reprendre là où on en était avant la pause. On parlait effectivement de cette arrivée à faire en sorte que les candidats sachent se valoriser. C'est aussi quelque chose de,
oui.
qui existe depuis très longtemps dans la notion de recherche d'emploi et d'entretien. On a son CV. Et on en parlait d'ailleurs avec Patricia et Florian pendant la pause. C'est finalement ce qui est arrivé en fin de CV, là, tout en bas, les expériences diverses, les expériences associatives ou autres, ou sportives. C'est ça qui compte en termes de soft skills. Comme vous dites, les professionnels.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc après, je pense qu'on aura forcément quelques minutes pour vous parler notamment de notre projet avec la métropole, des Mosaic Training Days, parce qu'on va avoir une action là, du coup, à Grenoble.
Et on a fait une émission déjà avec la
Voix de l'Emploi. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, on a fait une émission. Ouais. Et cet événement-là va avoir lieu à nouveau les 20 et 21 mai prochains. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet en fait de faire prendre confiance en ces jeunes. Et conscience de tout leur potentiel aussi. Et ça passe effectivement par la case dont vous parliez des activités qu'on peut faire en dehors de notre formation, de nos expériences professionnelles. Il y a aussi tous les jobs étudiants que tous les jeunes qu'on détecte, notamment dans les quartiers, font pour subvenir à leurs besoins, etc., et que ça leur permet vraiment de développer énormément de compétences dont ils n'ont pas toujours conscience. Donc, c'est super important de leur faire prendre conscience de ça, parce que ça fait vraiment la différence. Ça montre la détermination, la capacité à être autonome dans sa vie. Et en fait, c'est gage de fiabilité pour les recruteurs. Et pour tout ce qui est soft skills plus large, en fait, Mosaïque, on a lancé un outil qui s'appelle diversifiervostalents.com. Donc c'est le site www.diversifiervostalents.com, qui permet en fait à toute personne de tout âge d'ailleurs et de tout niveau de diplôme de passer des tests justement pour évaluer donc ses motivations professionnelles, sa personnalité en entreprise et ses aptitudes. Donc c'est vraiment autour des soft skills et c'est complètement gratuit. Et l'idée, c'est que derrière, on en tire une petite synthèse sur justement son potentiel professionnel, ce qu'on peut revendiquer en dehors de son CV, qui va pouvoir être pertinent pour les recruteurs. Et l'intérêt de l'outil, il est là, en fait, premièrement. Et deuxièmement, on peut derrière postuler à des offres de nos entreprises partenaires directement sur ce site en valorisant justement ces résultats. qu'on peut avoir au test, etc. Donc, je pense que c'est non seulement un outil intéressant pour lutter contre les biais inconscients aussi hein, dans une discrimination à l'embauche, mais qui permettent voilà, aux jeunes, nous qu'on suit, parce qu'on leur fait tous passer ces tests et on les débriefe ensemble, de pouvoir prendre conscience de tout son potentiel professionnel qu'on peut mettre aussi au service des entreprises au-delà de son CV.
Alors j'aimerais qu'on aborde un peu la question des discriminations dans le parcours d'emploi, les discriminations à l'embauche, voire même les discriminations dans le milieu du travail, puisque vous, Patricia, pour l'APEC, et vous, Marie-Lou, pour Mosaïque RH, vous avez un regard sur tout ce milieu-là. Ces discriminations, on entend souvent par là les discriminations en fonction de l'origine géographique, les quartiers sensibles, prioritaires, les discriminations dues à la couleur de la peau, dues à la consonance étrangère des noms. Est-ce que c'est encore des pratiques très très courantes de la part des employeurs, ou est-ce que les entreprises essayant depuis des années maintenant de mettre en valeur le côté citoyenneté de leur activité, est-ce que ça commence un petit peu à s'améliorer tout ça? D'abord Marie-Lou, puisque vous, votre cabinet, c'est spécifiquement avec des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires. Ensuite, Patricia, vous pourrez nous dire d'une manière plus vaste si les cadres sont aussi confrontés à des discriminations. Donc Marie-Lou.
Donc oui, malheureusement, c'est de là que s'est créée notre structure d'ailleurs. Le constat, c'est que aujourd'hui, à niveau de diplôme et compétences équivalents, un candidat ou une candidate doit envoyer 4 fois plus de CV pour obtenir un entretien d'embauche par rapport à ses origines sociales ou géographiques. Donc c'est ce que vous disiez. Hein. Donc c'est un constat et c'est un constat qui a été fait et qui, effectivement, on l'espère, va évoluer dans le bon sens. Je pense qu'il faut avoir un certain optimisme par rapport à ça, se dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut faire évoluer les choses à travers justement de la sensibilisation autant auprès des entreprises que des institutions, etc. C'est vrai que ça perdure quand même, mais au niveau systémique. Donc, c'est dur de, effectivement, pointer du doigt une entreprise en particulier. C'est plus un système de pratiques. Il y avait aussi Patricia qui évoquait le clonage tout à l'heure. Il y a pas mal de biais des fois et de préjugés inconscients qui poussent les personnes à recruter des gens qui leur ressemblent, de leur milieu social, de leur école, etc. Et c'est un petit peu tout ce cercle vicieux qu'il faut casser pour changer la donne en fait et faire en sorte que ce constat-là évolue dans le bon sens. Parce que si on a les mêmes compétences, c'est pas normal de devoir envoyer plus de CV pour décrocher un entretien. Et on parle encore du stade de l'entretien, on parle pas d'obtenir le job, quoi. Donc voilà.
Avec les candidats que vous accompagnez, les CV, c'est comment? C'est des CV anonymes ou des CV qui donnent toutes les précisions sur le jeune ou la jeune femme?
Alors, ouais, donc sur notre outil diversifiervostalents.com, pour le coup, le CV passe complètement en second, parce qu'on va d'abord voir le prénom de la personne et ses compétences humaines, etc. Comme je vous disais, hein, ses soft skills. Donc ça permet aussi de mettre en avant d'abord des éléments très concrets qui vont éviter des discriminations inutiles. Et par rapport au CV, votre question c'était?
Oui, si ce sont plutôt des CV anonymes, puisque ça, c'est apparu il y a quelques années pour contourner un peu les préjugés, les réactions discriminantes. Donc, comment c'est anonyme?
Alors, c'est vrai que, ouais. Alors, non, c'est pas anonyme. C'est vrai que je pense que sur le principe, le fait d'anonymiser, ça part d'une bonne intention parce que ça permettrait à tout le monde d'être traité de manière égalitaire dans l'utopie. C'est vrai qu'après, dans les faits, malheureusement, déjà, un CV, il reste anonyme très peu de temps parce qu'un recruteur qui veut des infos sur un profil, il va sur Google et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on trouve beaucoup d'infos en e-réputation, quoi, sur les sites divers et variés. Donc, on peut retrouver facilement des infos sur un candidat. Et nous, on est plus effectivement sur valoriser la singularité de chacun, les atouts qu'on a pu avoir dans notre vie personnelle, professionnelle, sur lesquels on va pouvoir miser justement pour faire la différence, obtenir un emploi et montrer sa détermination. Donc, nous, on va être plus sur ça, quoi. Donc, concrètement, les CV des jeunes qu'on accompagne, Et notamment dans les ateliers Mosaic Training Days, ben c'est des CV comme tout candidat qu'on va simplement optimiser ensemble pour qu'ils puissent se mettre en avant vraiment toute leur tout leur potentiel et que ça puisse être être porteur et que ça permette de décrocher un maximum d'entretiens parce que c'est bien là la finalité.
Donc Patricia, pour les cadres, les jeunes diplômés cadres, est-ce qu'il y a aussi cette difficulté pour certains jeunes de devoir affronter en plus de la peur inhérente, hein, l'appréhension de tout ce qui va avec la recherche d'emploi, les demandes d'entretien, etc. Est-ce qu'il y a aussi de la discrimination chez les jeunes diplômés cadres ?
Si je voulais faire du politiquement correct, je dirais ben non, bien sûr, on s'est nettement amélioré sur le sujet. Mais non. Non, non, on est dans un monde qui est certes en transformation, mais la discrimination, elle existe et elle a encore, à mon sens, de belles années devant elle. Et la discrimination, elle se fait à tous les niveaux, en fin de compte, que ce soit pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Hein. Aujourd'hui, on retrouve une discrimination homme-femme. Ça existe encore. Parce que sur certains postes, on imagine qu'il vaut mieux avoir un homme qu'une femme. Il existe alors que c'est strictement interdit. Il y a certaines questions qui sont strictement interdites en entretien de recrutement au risque de, effectivement, un dépôt de plainte, mais il y a peu de candidats potentiels qui vont déposer une plainte auprès de l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, une question du type, toutes les questions qui ont trait aux pratiques religieuses, aux pratiques sexuelles, au fait d'être marié, paxé, etc., etc., ça c'est strictement interdit. Et pour autant, moi je peux vous dire qu'encore très récemment, on a eu l'exemple d'une cadre, une femme cadre, qui s'est présentée devant un cabinet de recrutement et qui a eu des questions totalement interdites quoi, par la loi. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement quand même la législation française qui veille au grain.
Et dans des cas comme ça, les candidats n'osent pas,
n'osent pas
dire
bien
que,
évidemment.
Voilà, que c'est interdit de poser cette question.
Quelqu'un qui aurait un tempérament bien trempé peut s'essayer à dire que c'est interdit. Voire même effectivement soumettre cet avis-là, parce qu'il y a des instances en France hein, qui sont là pour veiller.
Défenseurs des droits notamment.
Voilà. Mais quelqu'un qui est en recherche d'emploi, chômeur de longue durée, ou un jeune qui est à la recherche de son premier emploi, va souvent pas s'essayer à l'exercice. Et c'est très dommage. Donc nous, on peut remonter après au niveau des entreprises en disant attention, on a eu vent que, est-ce que oui, est-ce que c'est une maladresse, est-ce que voilà, c'était volontaire ou non. Voilà, donc on est là aussi pour prêter attention à ce genre de pratique de toute façon. Mais oui, enfin comme je le disais à l'instant, la discrimination, elle a quand même quelques années, de belles années devant elle. Il faut pas rêver, enfin. Mais il y a peut-être que les jeunes générations des recruteurs, peut-être que culturellement, socialement, sociétalement parlant, il y a des choses qui vont changer avec l'arrivée. Je ne veux pas dire que les vieux, entre guillemets, dont je fais partie, entre guillemets, mais je pense qu'il y a une ouverture aujourd'hui, peut-être d'esprit, qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, et qu'on recrute effectivement, on clone. Mais moi, j'ai vu les entreprises dans lesquelles j'étais en responsabilité RH, ou en recrutement, qui recrutaient toujours les mêmes écoles d'ingénieurs. Toujours.
Est-ce que ça fait partie aussi de l'accompagnement des candidats, de leur donner un peu ces billes, ces armes, de leur dire, alors parlons aussi de ce qui est interdit dans les entretiens, les questions qu'on ne doit pas vous poser, et de leur donner des conseils, comment réagir dans ces situations-là ?
Bien sûr, parce que, alors, on ne va pas forcément faire des formations auprès, mais on va sensibiliser les jeunes. Les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, en disant attention, là, on ne peut pas vous opposer telle ou telle question par rapport à la présentation que vous en faites. Mais malgré tout, ils sont la plupart du temps, quand vous êtes dans la réalité, quand vous êtes dans l'exercice réel, vous pouvez être pris de court ou avoir des craintes par rapport à ce qui pourrait se passer derrière.
Florian, donc vous avez passé déjà des entretiens
d'embauche ? Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que vous avez été confronté à des questions indiscrètes ou interdites ?
Pas que je me souvienne. En tout cas, il n'y a rien qui m'a choqué dans les entretiens que j'ai faits. Après,
donc, ça serait davantage plutôt les candidates féminines, notamment sur le côté maternité. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants ?
Je me permets de vous interrompre. J'ai vécu à titre personnel, ce genre d'exercice. Alors, il y a quelques, bien des années maintenant. Et quoi qu'il en soit, je l'ai vécu en réel à plusieurs reprises, où des recruteurs me posaient la question, pourquoi vous ne mentionnez pas sur votre CV si vous avez des enfants ou si vous êtes marié. Et effectivement, ces questions-là ne m'ont pas désarmée. Au contraire, j'ai répondu de manière à éclairer le sujet en disant est-ce que c'est gênant si j'ai des enfants pour occuper ce poste ? Et est-ce que c'est gênant d'avoir un mari ou pas ? Ou une femme à mes côtés ? Est-ce que c'est ça qui va faire ou non la compétence, que ce soit comportementale ou la compétence technique ? Mais ça peut exister encore, hein. Est-ce que vous êtes marié? Oui, non. Est-ce que vous pensez avoir des enfants? Oui, non. Et c'est souvent, on ne posera jamais cette question-là à un homme. Alors, je ne veux pas faire du sexisme, hein. C'est pas du tout mon objectif. Mais malgré tout, il y a des questions qui ne sont jamais posées à un homme et qui le sont, qui peuvent l'être à une femme, par exemple. Donc, il faut pas se laisser désemparer, être désarmé par la question. Il faut pouvoir retourner une réponse qui soit une réponse entendable par le recruteur.
Marie-Lou, de votre côté?
Oui. C'est vrai que c'est un moment qu'on prend dans les Mosaic Training Days. Il y a toujours une demi-journée dédiée aux entretiens où effectivement on aborde ces questions-là qui peuvent être posées aux candidats. Parfois, les candidats ne savent même pas que les questions sont illégales parce qu'ils sont habitués à les entendre en entretien régulièrement. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc, on en discute. On pose la question de quelles questions ont pu vous gêner ou vous troubler en entretien. Et on aborde des choses sur comment désamorcer ça. Parce qu'effectivement, souvent, il y a deux réactions. Soit le candidat n'ose pas et répond. Soit il peut se braquer, ce qui ne va pas forcément non plus apporter une réponse et un terme positif à l'entretien. Alors qu'il y a peut-être des manières intermédiaires de fonctionner. Et c'est vrai qu'on l'évoque. Et les questions sur les origines, sur la maternité, etc., sont des questions qui reviennent souvent. Et le but, c'est vrai que dans l'entretien, c'est que le candidat ou la candidate puisse aussi recentrer le débat, même si c'est pas censé être à elle ou lui de le faire, mais des fois, se recentrer sur les compétences et dire, écoutez, s'il y a une crainte sur tel et tel sujet, par exemple pour la maternité, est-ce que vous pourrez rester tard au bureau? Si votre question c'est si je peux rester jusqu'à 18h au bureau, je vous réponds oui, enfant ou pas en fait. Donc c'est vrai que souvent derrière la question d'un recruteur qui va être illégal, il y a une crainte et il faut pouvoir creuser ça et faire en sorte de recentrer le débat sur les compétences attendues pour le poste, quoi.
Donc, encore une fois, la préparation du candidat, savoir comment faire face à ces situations pour désamorcer peut-être une forme de préjugé, de discrimination qui a quand même un fondement pour l'employeur. C'est important que les candidats sachent comment gérer ça.
Tout à fait.
Les préjugés, ils peuvent aller jusqu'à... Moi, je me rappelle avoir fait partie d'avoir fait partie d'un jury d'examen dans une grande école de commerce, où la responsable du jury, à la fin de l'entretien, qui était le garçon, c'était un garçon, était extrêmement brillant. Et la question qui lui a été posée, est-ce que vous pensez que c'est dérangeant d'avoir une boucle d'oreille aujourd'hui ? Parce qu'il avait effectivement une boucle d'oreille, l'oreille gauche. Donc bon, il s'est pas démonté, le jeune homme. Il a dit, est-ce que vous pensez que c'est important ? Est-ce que c'est une question à poser ? Enfin, il était tout à fait droit dans ses bottes. Mais ça, typiquement, c'est aussi des choses qui, même si elles ne sont pas posées, là, c'était posé et calé, j'avais trouvé ça totalement aberrant. D'ailleurs, j'en ai parlé effectivement à la responsable de l'examen, en lui disant, c'est interdit, vous le savez quand même. Mais moi, j'ai eu des échanges avec des jeunes ou mes propres enfants. C'est-à-dire que le tatouage aujourd'hui, est-ce que c'est gênant ou non ? Une boucle d'oreille pour un homme. Les jeunes sont totalement désappointés par ça, en disant, mais pourquoi on peut aujourd'hui ne pas me recruter parce que j'ai un tatouage sur mon bras gauche ou parce que je porte une boucle d'oreille à l'oreille? Pourquoi? Et ça va jusque-là. On n'est plus sur la discrimination au faciès. On est sur une représentation. Donc aujourd'hui, il faut arriver à... Alors, malgré tout, le recruteur, c'est un être humain. C'est un être humain avec ses représentations. Et la plus grosse des difficultés quand on est recruteur, dans la peau d'un recruteur, c'est d'arriver à faire fi de ses représentations. C'est la plus grosse difficulté aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, ben oui, à ce moment-là, remplaçons un recruteur par l'intelligence artificielle. C'est un gros sujet aujourd'hui. Mmh. Parce que peut-être que l'intelligence artificielle, elle pourrait bypasser ses représentations. Mais il y a les limites, effectivement, à ça aussi. C'est qu'il y a plein de choses qui seront de l'ordre de la subjectivité ou en tout cas de la perception qu'on peut avoir de la personne qu'on a en face de soi, qui, en tout cas dans le cadre actuel des pratiques de l'intelligence artificielle, ne sont pas possibles. Donc voilà, on est on a un humain avec sa propre culture et sa propre représentation qui va avoir des difficultés à faire fi de tout ça. Et pour autant, il faudrait le faire parce qu'il faut être dans l'objectivité dans le cadre d'un recrutement et pas dans la subjectivité. Et c'est la plus grosse des difficultés à un moment donné parce qu'on est être humain. Et l'intelligence artificielle qui bride toutes ces autres questions et toute cette perception qu'on a autour de l'être humain qu'on a en face de soi, et peut-être qu'on va recruter cet être humain parce qu'il est différent et qu'on a cette représentation, qu'on a fait fi effectivement de sa subjectivité et qu'on va pouvoir aller chercher cette personne, cadre ou jeune d'ailleurs, ce qu'elle est, cette personne, et non pas ce qu'on projette. Même si on est responsable d'un recrutement dans le cadre d'une culture d'entreprise, etc. Mais voilà, il faut à un moment donné, effectivement, faire cet exercice qui est un petit peu un exercice d'équilibriste, qui n'est pas évident, en fin de compte.
On arrive en fin d'émission. Encore une fois, comme dans toutes nos émissions de la Voix de l'Emploi, on pourrait continuer la discussion sur d'autres aspects, mais il faut mettre un terme, forcément. Quelques mots, peut-être juste pour conclure, si vous avez un mot de la fin. Marie-Lou, je sais que vous vouliez revenir sur les Mosaic Training Days.
Oui, tout à fait. Simplement préciser que oui, il va y avoir deux journées dédiées à la recherche des diplômés des quartiers de la métropole de Grenoble, donc les 20 et 21 mai à la CCI de Grenoble. D'ailleurs, l'APEC viendra également partager ses dispositifs lors de ces deux journées. Et donc, en partenariat donc grâce au soutien de la métropole et en partenariat avec les acteurs de l'emploi, dont certains acteurs comme Omar de la mission locale qui nous aide beaucoup au sourcing. Donc on va avoir une quinzaine de jeunes et on va pouvoir justement échanger sur leur projet professionnel, leur stratégie de recherche, le fait de devoir travailler sur tel et tel aspect pour décrocher plus d'entretiens et comment réussir ces entretiens enfin. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui sont intéressés par le dispositif et qui ont un bac plus 2 minimum, qui n'hésitent pas à trouver mes coordonnées sur le site de Mosaic pour venir s'inscrire.
Effectivement, d'ailleurs, le site de l'APEC aussi est très bien fait. Hein, on trouve beaucoup d'informations, notamment sur les outils à disposition des candidats. Et donc, le site de Mosaïque RH également très complet. Patricia Ozil pour l'APEC, un mot de la fin ou juste nous donner
un mot de la fin, c'est il y a deux, trois points. Effectivement, en allant tout simplement sur apec.fr, vous êtes entreprise, vous pouvez solliciter un conseil, et donc vous allez faire une demande de conseil en faisant cette demande sur APEC.fr. Vous êtes cadre ou jeune, vous allez sur APEC.fr, vous pouvez même préempter très rapidement un rendez-vous parce que vous avez en visibilité les rendez-vous des consultants. Vous avez aussi la possibilité, parce que ça j'en ai pas parlé, de suivre des ateliers à la fois côté entreprise, mais à la fois jeune et cadre, avec des ateliers thématiques. Donc ça, c'est important aussi parce que dans ce parcours, il y a aussi du collectif. Alors, en ce moment, le collectif, il est principalement à distance. Et je vais dire aussi que ce qui est important, on a beaucoup parlé de soft skills, de compétences, etc. Ce qui est important de travailler, c'est sa visibilité, qu'on soit jeune. Et même pour une entreprise. L'entreprise, ça va être marque employeur. Donc, on va travailler sur ce qu'il identifie, ce qui lui permet de s'identifier, et donner des particularités. Et puis, côté jeune et côté cadre, on a ce qu'on appelle non plus une candidat PEC, mais on a une profil tech qui permet notamment de mettre en lumière des mots-clés, et notamment autour des soft skills. Donc, si vous êtes cadre, que vous n'êtes pas accompagné, quel que soit le statut que vous avez à l'instant T, n'hésitez pas, si vous posez plein de questions, à venir vers l'APEC en demandant effectivement un rendez-vous avec un consultant. Si vous êtes jeune, pareil, je vous conseille effectivement de venir pour venir chercher, un, de la méthodologie et deux, un accompagnement renforcé. Et puis, fabriquez votre profil, parce que là, vous serez visible des entreprises qui, elles, iront chercher techniquement, ça s'appelle de la recherche booléenne, les mots-clés qui vont correspondre effectivement à leurs besoins. Et juste aussi, un dernier mot, on organise un salon virtuel le 17 juin sur Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, bien évidemment, toutes les entreprises, alors il est payant, hein, parce que c'est l'APEC, effectivement, comme d'autres d'ailleurs, hein, ont des activités aujourd'hui de salons virtuels. Et si vous avez des candidatures, si vous recherchez des candidatures, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'APEC. Et de fait, effectivement, le jour du 17 juin, vous serez jeune ou cadre et vous pourrez candidater au poste avec ce qu'on appelle, dans notre jargon, le matching.
On termine avec Florian, juste peut-être quelques mots pour nous faire partager un peu vos projets, puisque vous êtes en recherche d'emploi. Donc, idéalement, ça serait quoi comme type d'emploi et où sur Grenoble, la Silicon Valley française?
Actuellement, ce serait plutôt sur la région lyonnaise principalement, parce D'accord. que j'ai pas mal de contacts là-bas, je connais déjà le coin. Moi, je recherche, j'essaie de trouver quelque chose dans la gestion de projet. Donc, peut-être pas tout de suite chef de projet, parce que je sais qu'en premier emploi, c'est un poste qui est assez dur à atteindre, mais dans des missions à dominante fonctionnelle, en fait, qui permettront justement de développer les compétences nécessaires et de pouvoir atteindre justement un poste de chef de projet dans quelques années, quoi. Et si je peux Bien terminer, sûr. Juste pour donner quelques conseils par rapport à mon expérience personnelle, justement aux jeunes diplômés qui ont un peu d'appréhension sur leur profil ou autre, c'est que il faut réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on sait faire et qui n'est pas juste des compétences techniques. Vous savez faire beaucoup de choses, en fait, c'est juste que vous ne le réalisez pas forcément. Et pensez à valoriser en fait vos passions, c'est finalement ce qui va plus vous représenter en fait pendant votre entretien, à part les compétences techniques, mais juste par exemple si vous aimez le jeu vidéo, par exemple, bah vous êtes peut-être très doué en communication, en fait, discuter avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. Voilà, ce genre de choses. Faut pas hésiter à valoriser en fait ces expériences-là et réfléchir comment tout ce que vous avez fait dans votre vie, en fait, qui a pas d'attrait professionnel, peut avoir un intérêt justement pour vous et pour représenter à des recruteurs.
Savoir se valoriser et mettre en valeur ses capacités en plus de ses compétences. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour cette émission. On est un petit peu en retard, Merci. On a dépassé les 14 heures, on s'en excuse auprès de nos auditrices et auditeurs. Nous étions en compagnie de Patricia Ozil, responsable de plusieurs centres APEC sur plusieurs départements, de l'Est, hein, donc du Sud-Est de la France. Florian Hinard qui est venu partager son expérience, son témoignage en tant que diplômé et en recherche d'emploi, et Marie-Lou Ferrand de Mosaïque RH pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci encore une fois. Bonne continuation, bonne chance pour la recherche d'emploi, Florian. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. Très bonne journée à tous. Salut.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.